J'ai une très bonne question pour vous. Est-ce que tous les croyants sont appelés à servir Dieu dans un ministère? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui nous sera très utile dans notre marche avec Dieu aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Ça me fascine de voir tout ce qui s'applique à nous, les croyants, dans le livre du Lévitique, où on parle de la tente d'assignation, des sacrificateurs, des vêtements sacerdotaux, de l'huile d'onction, du sanctuaire. Voici quelques questions concernant la leçon d'aujourd'hui. Selon la Bible, qui sont les vrais prêtres? De quelle manière pouvons-nous aller au ciel? Comment pouvons-nous avoir accès à Dieu? Est-ce qu'il y a des erreurs dans la Bible? Devons-nous être parfaits pour que Dieu accepte que nous le servions? Devons-nous être purifiés pour servir Dieu? De quoi avons-nous besoin pour discerner la volonté de Dieu pour notre vie? Est-ce que tous les croyants sont appelés à un ministère? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly est prêt à nous donner les réponses de la Bible à toutes ces questions. Demandons à Dieu qu'il nous instruise lui-même par la bouche de ton serviteur. Prions. Oui, Seigneur, on sait que tu as choisi d'enseigner à tes enfants par la lecture de ta parole et aussi en écoutant les prédicateurs que tu as choisis pour nous instruire. On veut entendre ta voix. Parle-nous, Seigneur, parle par la bouche de ton serviteur. On est à l'écoute et on veut que tu nous instruises. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Aujourd'hui, nous débutons une nouvelle section qui traite de la consécration des prêtres. Ce sujet est très important, car il va jeter de la lumière sur ce que nous appelons consécration de nos jours dans nos églises. Beaucoup de ce qu'on appelle de la consécration de nos jours n'est qu'une pauvre imitation du véritable produit. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Hébreux chapitre 7, verset 28. Chers amis, nous allons porter notre attention sur les sacrificateurs et non les offrandes. Nous laissons l'autel des reins pour nous préoccuper de la cuve des reins. C'est à l'autel que Dieu règle la question du péché une fois pour toutes. Mais cela ne rendait pas le coupable repentant parfait. Donc, Dieu l'amène à la cuve des reins où il le lave et le garde propre. Dieu nous lave toujours et nous garde toujours propre à la cuve des reins. Christ sert toujours Dieu en nous gardant propre à la cuve de son sang. Et il nous purifie de tout péché encore aujourd'hui. Israël avait un clergé et ses instructions sont écrites pour les prêtres. Le livre du Lévitique s'adresse en fait aux Lévites. Dieu voulait faire de toute la nation un royaume de prêtres. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode, chapitre 19, verset 6. Cela ne se fit pas, car le peuple a péché dans l'affaire du veau d'or. Rappelez-vous, Dieu a plutôt choisi une seule tribu, les Lévites. De cette tribu, un seul homme, Aaron, fut choisi pour devenir souverain sacrificateur. Aujourd'hui, toute l'Église est un peuple de prêtres et Jésus-Christ est le seul souverain sacrificateur. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Hébreux chapitre 8, verset 1er. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Apocalypse chapitre 5 verset 10. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse, chapitre 1er, verset 6. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Hébreux, chapitre 13, verset 10. Aujourd'hui, chers amis, l'autel se trouve au ciel. C'est le trône de la grâce. Dans l'avenir, après l'enlèvement de l'Église, je crois que les Israélites seront les prêtres sur terre pendant le millénium. La définition d'un prêtre ou d'un sacrificateur n'est pas laissée à notre discrétion. Mais la Bible nous donne une définition claire. La voici. En effet, tout souverain sacrificateur, près du milieu des hommes, est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Hébreux chapitre 5, verset 1er. Le sacerdoce de l'Ancien Testament ne ressemble absolument pas au sacerdoce existant dans les autres religions de l'époque. Un prêtre représente des hommes devant Dieu, et c'est en leur nom qu'il s'adresse à Dieu. Il est l'opposé d'un prophète qui approche l'homme au nom de Dieu. Un prêtre est choisi parmi les hommes pour aller les représenter devant Dieu et parler à Dieu en leur nom. Jésus-Christ est à la fois un prophète et un sacrificateur. Il fut envoyé par Dieu et il a parlé aux hommes au nom de Dieu. Maintenant, il est de retour auprès du Père et il est notre souverain sacrificateur. Il intercède pour nous auprès du Père. En fait, nous sommes en lui, mes amis. Si vous n'êtes pas en Christ, vous n'êtes pas avec lui au ciel, ni représenté par lui. Nous ne pouvons pas aller au ciel par nos propres moyens. C'est en Christ que nous pouvons entrer au ciel. Pour bien comprendre le livre du Lévitique et le sacerdoce, il faut connaître le tabernacle. Le tabernacle est une image de Christ et de son œuvre, tout comme les sacrificateurs et leurs sacerdoces. Ces images sont riches en détails et nous risquons d'en souligner un aspect au détriment d'un autre. Cependant, je désire souligner que la cour extérieure du tabernacle représente le monde sur terre. C'est là que Christ a versé son sang et qu'il est mort. Le lieu très saint est l'endroit invisible, le ciel où est monté notre souverain sacrificateur. Actuellement, lorsque le Seigneur Jésus est mort sur la croix et qu'il est monté au ciel, il a pris le tabernacle et ce qu'il représente sur un plan horizontal et il lui a donné une dimension verticale. L'autel est ici-bas sur terre, c'est ici que Christ est mort sur la croix, le lieu très saint, lui est au ciel. Et c'est là que se trouve présentement le Christ. C'est ce que nous enseigne l'Épître aux Hébreux. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Hébreux, chapitre 4, verset 14. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Hébreux chapitre 9, verset 11. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Hébreux, chapitre 8, versets 1 et 2. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Hébreux chapitre 9, versets 23 et 24. Christ est au ciel. Et puissions-nous voir cette réalité par la foi? Nous fréquentons l'Église, nous participons à un petit rituel, et nous ne réfléchissons pas aux réalités de la foi, la dimension divine des choses. Christ est au ciel, mes amis, et c'est en lui que nous avons accès au Père. La Bible nous invite à nous approcher de Dieu avec assurance. Christ est en présence de Dieu pour nous, mes amis. Nous n'avons pas été laissés seuls sur terre. Dieu est accessible par le Christ. Pour nous rendre au tabernacle, il faut prendre la direction verticale, car le lieu très saint est au ciel. À 12 reprises, dans ce prochain chapitre, il est affirmé que Dieu a donné des ordres à Moïse. La dernière affirmation se trouve au verset 36. Aaron et ses fils firent toutes les choses que l'Éternel avait ordonnées par Moïse. Les procédures présentées dans ce chapitre sont d'origine divine, et tous ont dû s'y conformer. Certains érudits croient que le livre du Lévitique fut rédigé non par Moïse, mais beaucoup plus tard. Il serait l'œuvre des prêtres. Mais nous voyons que tout fut fait selon le commandement de Dieu. Croyez-vous que la Bible est inspirée? Si oui, vous ne pouvez pas admettre que le livre du Lévitique fut écrit beaucoup plus tard. La Bible est un livre inspiré et sans erreur. Le tout a été écrit selon le commandement de Dieu. Chers amis, débutons notre lecture du Lévitique chapitre 8, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les deux béliers et la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. » Moïse doit faire venir Aaron et ses fils à l'entrée du tabernacle avec tous les items nécessaires pour la consécration. La liste nous fait penser à une liste d'épicerie, mais tous les items sont importants et ont une signification spirituelle. Le peuple doit être rassemblé afin d'être témoin de la consécration des sacrificateurs. Ce sera une cérémonie grandiose, chers amis. Le peuple verra Dieu prendre des hommes ordinaires et les mettre à part pour son service. J'ai envie de dire gloire à Dieu en lisant cela, parce que c'est ce qu'il va faire pour nous. Écoutez bien. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Hébreux, chapitre 7, verset 28. Christ était réellement consacré, et d'une certaine façon, personne d'autre ne l'a jamais été. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu accepte des hommes avec des infirmités. Si Dieu exigeait la perfection, nul d'entre nous pourrait servir. Louons Dieu du fait qu'il accepte de travailler avec des infirmes spirituels tels que nous, tels que moi. Heureusement qu'il y a le Saint-Esprit qui vient habiter en nous et qui nous enseigne. Du moins, si nous avons imploré le Christ comme sauveur personnel. Lévitique chapitre 8, versets 4 et 5. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, « Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. » Moïse fait ce que Dieu a ordonné et il explique au peuple qui suit les instructions de Dieu. Verset 6. Moïse fit approcher Aaron et ses fils et il les lava avec de l'eau. Moïse fit approcher Aaron et ses fils de la cuve d'airain et il les purifia avec de l'eau. Ceci démontre que pour faire le service du tabernacle, les prêtres devaient être purs. Ils furent pardonnés en offrant des sacrifices à l'autel, mais ils ont besoin d'être purifiés. De nombreuses personnes pensent qu'elles sont qualifiées pour servir parce qu'elles sont sauvées. C'est vrai que le salut est une qualification essentielle pour servir. Mais nous devons aussi être purifiés de nos péchés. Nous devons être purifiés pour servir Dieu. Voyez ce que dit la Bible. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite, chapitre 3, verset 5. Approchons-nous donc, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux, chapitre 10, verset 22. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Éphésiens, chapitre 5, verset 26. Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes pur, mais non pas tous. » Jean, chapitre 13, verset 10. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1er, verset 9. Le Saint-Esprit nous renouvelle alors que nous servons Dieu, mais il faut aussi être purifié. Qu'est-ce que le Saint-Esprit emploie pour nous purifier? La parole de Dieu. La Bible est l'instrument employé pour nous purifier. Le Seigneur a dit à ses disciples, dans Jean chapitre 13, qu'ils avaient besoin d'être lavés, parce que leurs pieds étaient sales. Ils avaient tous pris leur bain, c'est-à-dire qu'ils étaient tous sauvés par la foi en ce merveilleux sauveur qu'est le Christ, sauf Judas. Mais ils devaient se faire laver leurs pieds pour avoir une communion avec Jésus. Pour servir avec puissance, il faut être purifié. Oui, chers amis, nous sommes pardonnés et purifiés lorsque nous confessons nos péchés. Voulez-vous être un ouvrier utile à l'œuvre de Dieu? Alors, confessez vos péchés. C'est le premier pas. C'est la prescription de Dieu. C'est ce qu'il ordonne. Nous devons faire les choses selon les instructions de Dieu, selon ses commandements. Sinon, nous sommes des serviteurs inutile. Dieu a sa façon de faire les choses et nous devons apprendre à nous y conformer. Verset 7. Il mit à Aaron la tunique, il le ceignit de la ceinture, il le revêtit de la robe et il plaça sur lui l'éphod, qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Les vêtements du souverain sacrificateur sont un portrait de Christ. Souverain sacrificateur dans toute sa grâce extraordinaire et toute sa gloire. Chaque pièce de vêtement symbolisait un élément de la personne et l'œuvre de Christ. Le souverain sacrificateur portait un ensemble de 8 pièces, dont 4 étaient semblables à celles portées par tous les sacrificateurs. 4 pièces étaient portées seulement par le souverain sacrificateur. Ce qui le distinguait des autres prêtres. Ses vêtements affichaient la gloire et la beauté de la personne de Christ. Tous les prêtres portaient les vêtements suivants, la tunique, la ceinture, le tiare et le caleçon. Ils étaient faits de lin blanc, sauf le turban. Le lin blanc symbolise la justice de Christ. Chaque croyant est revêtu de la justice de Christ. Il est nécessaire d'être ainsi vêtu pour servir. Il faut se ceinturer pour obéir. La tunique et la ceinture étaient portées par tous les prêtres. Vous pouvez lire les détails complets dans le livre d'Exode, chapitre 28. Revenons à notre livre du Lévitique, chapitre 8, verset 8. « Il lui mit le pectoral, et il joignit au pectoral l'urim et le thummim. » Le pectoral est aussi décrit au chapitre 28. L'urim et le thummim étaient posés sur le pectoral. Urim signifie lumière et thummim signifie perfection. Je ne sais pas comment ces deux éléments fonctionnaient. Certains pensent qu'il y avait un rapport avec la loi et que la loi était probablement écrite sur les pierres. Les mots du psaume 19 ont la même racine hébreu. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Le psaume 19, verset 7. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Le psaume 19, verset 8. Nous retrouverons ces deux expressions dans ce texte qui vient d'être lu. Urim et Thummim. Il semble que l'Urim et le Thummim servaient à déterminer la volonté de Dieu. Donc, nous pouvons faire une application spirituelle. Nous avons besoin de la parole de Dieu et de sa direction afin de déterminer sa volonté pour notre vie. Verset 9. Il posa la tiare sur sa tête, et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or, diadème sacré, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. La tiare est aussi décrite au chapitre 28 d'Exode. Les mots « Sainteté à l'Éternel » sont gravés sur la lame. Ces éléments des vêtements sacerdotaux distinguaient le souverain sacrificateur des autres prêtres. Ils symbolisaient la gloire et la beauté de notre souverain sacrificateur qui est mort à notre place et qui vit maintenant à la droite de Dieu, où il intercède pour nous. Comme nous dit le texte dans Romains chapitre 5, verset 10. « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Car je vis, et vous vivrez aussi, nous dit Jésus, rapporté par l'évangéliste Jean, chapitre 14, verset 19. Les fils d'Aaron l'accompagnaient, vêtus de simples vêtements de lin blanc. C'est une image de notre souverain sacrificateur avec ses nombreux fils autour de lui et revêtus de sa justice. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Hébreux chapitre 2, verset 10. Nous nous présentons à Christ comme des pécheurs perdus, et il nous revêt de sa justice. Chers amis, poursuivons et terminons notre lecture pour aujourd'hui. Lévitique, chapitre 8, versets 10 à 13. Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui étaient, et le sanctifia. Il en fit sept fois l'aspersion sur l'autel, et il oignit l'autel et tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, et l'oignit, afin de le sanctifier. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit de tuniques, les ceignit de ceintures, et leur attacha des bonnets, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le texte nous répète que tout fut fait conformément aux ordres de Dieu. Encore une fois, ceci nous rappelle que nous avons besoin d'être vêtus de la justice de Dieu. Cher ami, es-tu revêtu de cette justice qui s'obtient gratuitement? Prochaine émission, préparez-vous en lisant Lévitique chapitre 8 verset 14 à chapitre 9 verset 24.
Merci beaucoup, Réjean. Tu nous as bien dit que tous les croyants sont appelés à se mettre au service de Dieu dans un ministère selon les dons qu'ils ont reçus. Je suis contente d'entendre ça. Et en même temps, ça ne me surprend pas. Pendant mes premières années de vie chrétienne, je croyais qu'il y avait juste les pasteurs et les diacres qui avaient des ministères. Par contre, je me suis mise à aller un peu partout avec mon pasteur et son épouse pour annoncer la bonne nouvelle du salut. J'apprenais d'eux, j'apprenais comment on fait pour conduire une âme à Christ, et je le faisais ensuite sans eux. Et Dieu me bénissait. Même si je n'avais pas beaucoup d'expérience, je racontais aux gens comment j'avais été sauvée, comment un jour j'ai réalisé que je croyais en Jésus-Christ, que je croyais en son sacrifice à la croix pour payer la dette de mes péchés. Et je leur racontais que j'avais demandé à Jésus de me sauver, de me pardonner, de me donner la vie éternelle, et qu'il l'avait fait. Et les gens se sont mis à se convertir, à demander eux aussi à Dieu de leur donner la vie éternelle. J'ai pris goût à évangéliser. Et c'est devenu une chose naturelle pour moi, comme manger, boire, dormir. Alors, j'exerçais un ministère sans le savoir. C'est la même chose pour la musique. Graduellement, je me suis mise à accompagner les chants à la guitare avec les musiciens qui étaient avec moi, là. Et après quelque temps, j'exerçais ce ministère à tous les dimanches à l'église, sans réaliser que c'était un ministère. Et maintenant, je fréquente une église où presque tout le monde a un ministère. Et on appelle ça un ministère. Il y a des gens à l'accueil, il y a des placeurs, il y a des gens qui font le ménage, il y a une secrétaire et des personnes qui aident la secrétaire. Il y a quelqu'un qui est responsable de mettre les acétates pour aider les gens à suivre les paroles des chants avec nous. Il y a des responsables de groupes de prière, des gens qui président dans l'assemblée. Il n'y a pas juste le pasteur qui prêche. Il y a des responsables de cellules où on se rencontre en petits groupes sur semaine. On appelle ces responsables des sous-bergers. Alors, beaucoup de gens ont des ministères. On est serviteurs les uns des autres et c'est fantastique. Mon ami, est-ce que tu fréquentes une église? As-tu découvert quel est ton ministère? On a tous des dons. Je t'encourage donc à trouver le tien ou les tiens et de t'empresser à le mettre au service des autres. Tu vas découvrir la joie qu'on a à se laisser utiliser par Dieu pour faire du bien à son peuple, pour faire connaître son beau nom. Et n'oublions pas à chaque jour de réserver au moins un temps spécial pour aller dans la présence de Dieu, pour prier, méditer sa parole, pour le louer et l'adorer. Dieu nous a créés pour sa gloire. Rendons-lui la gloire qui lui est due. Allons à lui chaque matin. C'est tellement bon d'ouvrir sa parole et de découvrir la richesse de son amour envers nous. Si t'as pas une Bible, trouve-en une. Il n'y a pas de meilleur livre. C'est dans la Bible que tu vas trouver la paix que Dieu donne, l'amour que Dieu veut te donner, qui veut te transmettre, et ce, pour l'éternité.
Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours parole par poste.
Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance?
Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel.
Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long?
Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondues à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire.
Alors on n'a pas besoin d'autres livres?
La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule.
Pour en faire la correction.
Parce que les gens pourront suivre cette série.
Ah, c'est pas compliqué.
Très simple.
J'ai vraiment le goût de m'inscrire.
Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone.
1-877-LESPOIR ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Au revoir.
À demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.